Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Actuellement, nos études portent sur un livre de la Bible écrit par le prophète Habacuc.
Tout comme beaucoup, Habacuc vivait dans une société violente et dépourvue de justice. Or, ce livre montre comment, dans un tel contexte, le prophète Habacuc a appris à vivre par la foi et quelles sont les leçons fortes et pertinentes qu'il nous laisse aujourd'hui. Tout au long de cette série, Ian sera en compagnie de notre invité André.
Bonjour André, et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Ian et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons appris qu'Habacuc a dû accepter les épreuves et la souffrance à venir annoncées par Dieu, alors que le prophète lui criait sa détresse. Celui qui vit par la foi doit se souvenir que ce monde est soumis au jugement de Dieu et que les justes peuvent en subir les douloureuses conséquences. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la prière d'Habacuc, étudiée la dernière fois. Hélène va nous la lire.
Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayée devant ton œuvre. Ô Éternel, dans le cours des années, accomplis-la, dans le cours des années, fais-la connaître, dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément.
Dans ce contexte malheureux, où le jugement de Dieu se fait connaître, le prophète l'implore et le supplie, rappelle-toi d'être clément.
Oui, Yann. À travers ses jugements, Dieu révèle sa juste indignation contre le péché. Toutefois, le prophète sait aussi que Dieu est amour et à travers cette prière, il le supplie que cet amour soit révélé, alors même que ses jugements s'exécutent.
Dans le verset cité, nous trouvons le mot « clément ». Que signifie-t-il ?
Dans certaines traductions de la Bible, ce mot « clément » est traduit soit par « miséricordieux », soit par « compatissant ». Selon le dictionnaire, une personne qui se montre clémente pardonne les offenses du coupable ou atténue les rigueurs du châtiment qu'elle reçoit.
Voilà ce que demande à Dieu le prophète.
Oui, le mot « miséricorde » a une signification proche de la « clémence ». Car la miséricorde est la disposition de ne pas traiter une personne selon ses fautes, mais plutôt à tout lui pardonner.
Le prophète a donc imploré Dieu en lui demandant de faire preuve de miséricorde et de compassion. Mais Dieu a-t-il répondu à cette prière d'Habacuc?
Dieu permet toujours aux rebelles de revenir à lui. D'ailleurs, nous apprendrons lors de notre prochaine émission que Dieu envoya Habacuc au sein de son peuple afin de le supplier de se mettre à l'abri du jugement divin. Cette invitation au pardon est offerte à tous. Elle est l'expression de la miséricorde de Dieu alors que ses jugements tombent. Ensuite, je pense que le prophète ne priait pas seulement pour son peuple rebelle, afin qu'il se tourne vers Dieu et qu'il reçoive sa miséricorde, mais aussi pour les fidèles, afin qu'au sein des épreuves, ils puissent apercevoir et vivre la compassion de Dieu.
Expliquez-nous cela davantage.
La dernière fois, vous m'avez demandé si croire en Dieu était avantageux, puisque tous, nous subissons les mêmes événements difficiles que les incrédules. Or voici que la prière d'Habacuc exprime le désir que l'Éternel manifeste sa compassion envers les croyants, alors que ces derniers passent par de terribles temps d'épreuves. Il est vrai que le croyant n'est pas à l'abri des maux qui affligent l'humanité, mais qu'au sein de toutes ces afflictions, Dieu lui manifestera son amour fidèle. Dieu peut nous relever. Il a le pouvoir de nous réconforter, de nous fortifier et de nous redonner courage. Dieu peut renouveler notre patience et notre espérance. De diverses manières, il nous prouvera son amour. Toutefois, à ceux qui se demandent encore aujourd'hui comment Dieu peut-il nous prouver son amour, le Nouveau Testament nous apporte une réponse à la fois claire et extrêmement importante.
Éclairez-nous à ce sujet.
Écoutons la lecture de la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. C'est parce que Jésus-Christ est mort à notre place sur la croix que nous vivons la miséricorde de Dieu. Nous pouvons même affirmer que Dieu a exaucé la prière d'Abacuc. Rappelle-toi d'être clément en envoyant son Fils Jésus dans le monde pour venir à notre secours.
Expliquez-nous donc comment la mort de Jésus-Christ sur la croix démontre la miséricorde de Dieu.
Habacuc est effrayé devant la colère et l'indignation de Dieu. Jean, quant à lui, nous annonce que cette colère a été apaisée. Comment ? Par la mort de Jésus-Christ qui s'est offert à Dieu afin de subir son juste jugement à notre place. Or, dès l'instant où nous mettons notre foi dans cette œuvre d'amour, Dieu déploie envers nous sa miséricorde, et il ne nous traite plus selon nos péchés, mais il pardonne nos fautes et nous met à l'abri de son jugement éternel. De plus, l'Éternel nous adopte comme ses enfants, et il devient alors notre Père céleste. En tant que Père, il demeure avec nous, quelles que soient nos circonstances. Même si nous devons traverser la pire des épreuves et connaître la souffrance, jamais ces difficultés ne pourront nous séparer de l'amour fidèle de Dieu.
La foi est donc vitale.
Oui, et voilà pourquoi Habacuc déclare « Le juste vivra par la foi ». D'ailleurs, l'apôtre Paul a cité ce même verset lorsqu'il a écrit à l'église de Rome.
Et dans quel contexte ?
Paul le cite juste avant de développer ses arguments prouvant que tous nous sommes placés sous le jugement de Dieu, mais qu'en Jésus-Christ nous pouvons y échapper et trouver son pardon et sa miséricorde. Jésus est mort sur la croix pour subir le châtiment de nos péchés, et il nous invite à mettre notre foi en lui. Car c'est ainsi que nous connaîtrons la vraie vie, c'est ainsi que nous vivrons éternellement. Oui, le juste est appelé à vivre par la foi.
Et que voulez-vous dire par la vraie vie ?
La vraie vie, selon la Bible, consiste à connaître Dieu et à marcher avec lui. Elle consiste à se nourrir des paroles du Seigneur et à vivre dans l'éternité avec lui. Mais pour obtenir cette vie, il faut avoir foi en Jésus-Christ, la source de toute miséricorde.
Donc, dans un monde où les maux et les malheurs nous assaillent, à cause du péché et du juste jugement de Dieu, vous nous invitez à placer notre foi en Jésus-Christ, afin de trouver en lui la miséricorde et une espérance.
Absolument, et il n'existe pas d'autre solution. Habacuc a prié « Rappelle-toi d'être clément ». Et nous le déclarons, Dieu est clément, il est compatissant et miséricordieux. Alors tournons-nous vers Jésus-Christ afin de bénéficier de ses merveilleuses qualités divines.
Merci André. Notre désir est que le Seigneur puisse fortifier votre foi et votre espérance dans un monde souvent malheureux. À présent, nous allons passer à notre méditation biblique. Nous étudions ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne au sujet de Jésus. Et je cède tout de suite la parole à notre invité Sébastien. Bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. L'Épître aux Hébreux nous parle beaucoup de la grandeur de Jésus-Christ. De plus, la dernière fois, nous avons aussi appris qu'il est proche de ceux qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui, je vais approfondir mes réflexions sur le fait que Jésus est près de celui qui se tourne vers lui. Mais auparavant, Janine va nous lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, des versets 14 à 16.
Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
La tentation est une expérience à laquelle tout chrétien doit faire souvent face. Il est vrai que lorsque nous passons par des moments de tentation particulièrement intenses, nous n'aimons pas trop l'admettre ou alors il nous est difficile d'en parler. Avons-nous peur d'être mal compris ou mal jugé? Probablement. Préférons-nous faire semblant que tout va bien alors que dans notre fort intérieur, nous sommes engagés dans une lutte acharnée? Probablement. Oui. Face à la tentation, on peut se sentir très isolé, faible et vulnérable, ne plus savoir où aller, vers qui se tourner pour trouver un regard compréhensif, le secours ou la délivrance. Si tels sont vos sentiments, le texte lu tout à l'heure annonce une bonne nouvelle. Vous pouvez vous tourner vers Jésus car il écoute tous ceux qui l'implorent. Il a compassion de celui qui fait appel à lui. Oui, en son temps, il enverra son secours et il vous délivrera. Pourquoi pouvons-nous ainsi compter sur Jésus? Parce que, selon les versets lus, Jésus a été tenté lui-même en tout point tel que nous le sommes. Cette vérité peut étonner. Nous n'avons pas l'habitude d'imaginer Jésus confronté à des tentations semblables aux nôtres. Mais ce texte affirme que c'était le cas. Il faut le rappeler, bien sûr. Être tenté n'est pas du tout péché. Lorsque nous sommes tentés, nous subissons une influence exercée sur nous qui nous incite à pécher. Mais tant que nous ne cédons pas à cette mauvaise influence, nous ne péchons pas. C'est pour cela que le texte lu déclare que Jésus a été tenté comme nous, mais qu'il n'a jamais péché. Malgré les fortes pressions exercées sur lui par le diable, par ses proches, par les foules, par ses ennemis, il n'a jamais cédé à la tentation. C'est pourquoi, parce que Jésus est passé par des moments de tentation particulièrement intenses, il comprend tous ceux qui en subissent. Il éprouve de la compassion envers tous ceux qui traversent de telles épreuves lors de leur marche chrétienne. Face à la tentation, cher ami, il ne faut jamais penser « Jésus va me juger, me condamner ». Il ne faut jamais croire non plus « Jésus m'abandonne, il n'est plus avec moi ». Non, au contraire. Jésus demeure tout proche de celui qui l'invoque. Et je le répète, il écoute, il compatit à notre désespoir, il répond, il secourt.
Merci Sébastien pour ces réflexions rassurantes. Nos deux séries se poursuivront la prochaine fois. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver bientôt. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.